Je reformule la question, c'est autour du rayonnement international et comment attirer les meilleurs enseignants. Et donc voilà, c'est autour de ça, cette question de en fait, se regrouper pour mieux rayonner.
Merci, mais j'avais déjà un peu abordé ce point-là dans le propos avant. Je crois qu'effectivement, il y a deux aspects. L'Université de Strasbourg, elle n'est pas inconnue à l'étranger, les étudiants de beaucoup de pays, ils savent à peu près nous repérer nos avantages, nos inconvénients, et également à peu près où on est. Mais dans certains cas, on peut admettre que se présenter sous une identité commune, ça peut avoir un avantage, ça sera à voir. L'autre point, c'est effectivement plus logistique. Vous citiez la question d'être présent dans certains pays pour montrer ce qu'on fait et éventuellement aussi avoir des éléments. Par exemple, je pense à beaucoup d'universités ont des bureaux en Chine. Pas nous, on n'a pas les moyens, je ne vois pas comment on pourrait le faire actuellement. La question des grands pays en développement et des relations avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil sont des questions qui sont complexes, qui sont très intéressantes. Demain, ce type de représentation à l'étranger est plus facile à envisager si elle doit être envisagée, je ne dis pas qu'il faut le faire, si elles sont mutualisées. Donc ça peut être effectivement des éléments à la fois d'identité de rayonnement, mais aussi extrêmement logistique. On pourrait mutualiser des choses à partir, par exemple, du campus européen.
Donc c'est pour faire des choses en plus. Comme il y a plus européen, c'est pas pour faire pour mutualiser nécessairement pour faire disparaître les choses, mais pour faire des choses en plus.
On se regroupe et on se regroupe pas, hein, d'ailleurs, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour faire mieux, et pourquoi pas en plus. Mais déjà, pour faire mieux, qualitativement pour ceux qui sont déjà là, parce que le bénéfice, c'est pas justement faire en plus, voudrait dire qu'on rajoute une couche, qu'on s'occupe pas de ce qui se passe déjà. Je pense pas que c'est ce que nous voulons faire mieux avec une optique particulière, c'est que notre pays, c'est la France, mais notre zone culturelle, c'est le Rhin supérieur. Donc, à partir de là, nos étudiants peuvent être nos chercheurs, notre manière de bosser, elle peut aussi se baser sur ce Rhin supérieur. Mais faire plus aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux faire bien ce qu'on fait déjà plutôt que vouloir tout faire plus.
Vous avez parlé, M. Beretz, à un moment, en traduisant une expression allemande, de zone franche académique. Alors, je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a d'autres exemples de zones franches, bon, pas du tout du côté universitaire, même à Strasbourg, il y en a une, au Neuhof, je crois. Et en général, ça s'accompagne, comment dire, d'une déréglementation. Alors ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce qu'il y a des exemples ailleurs, en Europe ou ailleurs dans le monde, de ce campus européen, enfin, de ce que vous souhaitez faire?
Alors, La notion de zone franche académique, c'est une expression, j'avoue, mais l'idée, j'ai donné deux exemples pour bien dire ce que je... Oui, c'est de la dérégulation, si on veut. Alors, moi, il y a des régulations que je ne souhaite pas qu'on abolisse. On a un certain nombre de réglementations, de régulations qui nous protègent, qui protègent nos étudiants, qui protègent nos chercheurs. C'est pas ça qu'on veut. Mais j'ai donné l'exemple des crédits. Je pense que c'est un bon exemple. Si demain, on est capable d'aller au-delà des limites administratives et que sur des critères de qualité, sur des critères de lisibilité, de dépenses d'argent public qui sont identiques, un chercheur français peut avoir des crédits allemands sans que ça soit des crédits faits pour le franco-allemand. C'est une dérégulation, oui, qui me semble utile. Si la dérégulation vise à niveler par le bas des protections, des avantages qui sont intrinsèques à ce que l'université est et doit rester, ben ça, bien sûr que non. Alors là aussi, moi, je n'ai pas l'expérience des zones franches économiques, hein, en général, qui visent, si j'ai bien compris, plutôt à des éléments de simplification et de détaxation. C'est comme ça que j'ai compris les zones franches de détaxation. Est-ce que ça aide ou pas, c'est-à-dire sur l'emploi, sur la création d'entreprises, sur l'emploi dans les cités, etc. Moi, je suis incapable de le dire. Un allègement de certaines contraintes administratives, je crois que tout le monde ici, tous ceux qui ont affaire de preuves de loi avec l'université, diront qu'il y a dans certains cas des réglementations qui se sont empilées sur nos têtes et dont certaines couches pourraient être facilement simplifiées. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément de l'international. Alors, tu avais une autre question
Des exemples ailleurs.
Les exemples ailleurs, il y en a assez peu. Les exemples de proximité géographique, il y en a une à la frontière entre le Danemark et la Suède. Et c'est pratiquement, là encore une fois, il faut qu'il y ait une proximité géographique. C'est absolument, je veux dire, l'originalité, c'est de se situer dans un rayon métropolitain cohérent. Alors, il y a quelque chose qui existe pas très loin de chez nous, c'est ce qu'on appelle l'université de la grande région en Lorraine, l'université de Lorraine, l'université de Saarbrücken et l'université du Luxembourg. Là, les contours géographiques, les distances impliquées sont à peu près, disons, comparables. Géographie, mais on est sur les mêmes types de réflexes. Ils font quelque chose actuellement comme Eucor, hein, c'est pas encore le campus européen, mais ça serait tout à fait utilisable pour cette zone-là. L'idée étant effectivement, nous ne revendiquons pas un traitement unique pour Strasbourg, ou l'Alsace et le Bade-Württemberg. Nous disons ensuite aux autorités d'État ou des langues que, éventuellement, s'ils inventent des dispositifs, ils pourraient s'appliquer à d'autres régions qui ont des proximités géographiques du même type. En France, ensuite, il y a des démarches, par exemple, entre PACA et l'Italie, ou avec la Catalogne pour nos collègues du Sud-Ouest, mais là, les distances sont plus tout à fait les mêmes. Donc, ça peut être intéressant, mais on se situe, par exemple, avec la Catalogne, sur des éléments de proximité, c'est encore proche, mais c'est plus le même type de proximité. Je vous citais l'exemple tout à l'heure, un peu anecdotique, mais on est quand même en une heure actuellement, s'il n'y a pas d'embouteillage, on est quand même en une heure.
Question ?
Oui.
Il y
avait
une question là. Alain ? L'Eurométropole en 2015.
Plus fort.
En 2015, l'Eurométropole devrait commencer à s'installer. Est-ce que ça constituerait pas pour l'université une occasion de faire à la fois évoluer son statut financier, administratif? C'est à discuter, c'est un statut. Est-ce que ça ne constituerait pas une opportunité pour elle de prendre une dimension en rapport avec une vocation européenne de Strasbourg comme aussi une capitale européenne, qui a l'avantage sur Bruxelles de ne pas être une capitale nationale?
Bon, je ne sais pas exactement ce que l'Eurométropole, je ne sais pas, là c'est le dossier de l'Eurométropole, mais quand même, on a cité tout à l'heure, je ne sais plus.
L'Eurométropole, c'est un niveau d'organisation administrative français.
Voilà, c'est français. C'est quand même français. Que la notion de métropole est intéressante, ceci étant dit. L'Eurométropole, je pense que ce n'est pas notre sujet là. On a parlé de l'Eurodistrict tout à l'heure. Alors, c'est vous qui en avez parlé. Le concept est intéressant aussi, en tout cas dans ses attendus. Sauf que l'Eurodistrict a un contour avec l'Ortenau, c'est-à-dire il y a deux Fahrenschulen avec lesquels on travaille. Fahrenschulen de Kiel et d'Offenburg. Mais vous savez qu'en Allemagne, les Fahrenschulen qui sont une approximation totalement erronée, mais c'est un peu comme les IUT. Mais elles ne sont pas dans les universités, ça c'est vrai. Et il y a une sorte d'opposition quelquefois malsaines, une centrale d'ici, entre les Fahrenschulen et les universités. Chez nous, les Fahrenschulen, quel qu'en soit le statut, sont dans les universités. Voilà. Donc, ceci étant dit, on collabore très très bien avec la Fahrenschule de Kehl et d'Offenbourg. Donc, les évolutions favorables de l'Eurodistrict, elles pourraient avoir des conséquences réglementaires sur cette collaboration-là, mais pas a priori sur la collaboration avec Fribourg, Karlsruhe, puisqu'on n'est plus on n'est pas dans le champ administratif. Moi, là, nous ne sommes pas là pour nous plier à des contraintes administratives à ce stade. Nous avons une idée, nous donnons plutôt, disons à nos élus, aux élus locaux, alors il y a aussi des différences entre le Nord et à nouveau nous dépendons beaucoup plus de Paris. Est-ce que vous avez des idées sur la base de notre idée à nous? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Mais on n'est pas là pour se rentrer obligatoirement dans un système qui nous concerne.
Oui, question.
Oui, Alain, il y en a beaucoup ici qui savent le regard sceptique, sinon sarcastique, que je porte régulièrement sur les machins franco-allemands qui ne font qu'exister pour exister ou pour être un fromage. Alors là, ce que tu nous as présenté, j'ai apprécié. C'est simple sur la forme et ambitieux sur les finalités. Et c'est surtout faisable au sens financier, au sens peut-être aussi réglementation. Là, j'ouvrirai peut-être une parenthèse, le mot déréglementation ne m'a pas plu. Moi, je vous aurais plutôt proposé déconstruction, reconstruction. Vous allez déconstruire certaines ruines et construire le truc nouveau à la place. Alors ma question est la suivante. Actuellement, il y a un nombre limité de personnes qui portent cette idée. Or, nous le savons, le franco-allemand ne peut marcher que si un nombre illimité ou un grand nombre de personnes le portent, s'impliquent, s'en sentent responsables. Actuellement, que fais-tu pour augmenter le nombre de personnes qui vont s'impliquer et qui vont porter cela longtemps?
Je pense qu'au-delà des personnes, ça doit être une notion d'institution, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit convaincu que c'est intrinsèque à notre fonctionnement. Tu as raison, il faut que, en même temps, il y a un moment, il y a toujours des gens qui ont des idées, elles se diffusent plus ou moins. Ce qu'on fait aujourd'hui, et d'ailleurs votre présence assez nombreuse tend à prouver que c'est une idée au moins qui stimule la réflexion. Les politiques ont manifesté leur intérêt. Ça coûte rien. Le carnet de chèque n'a pas été ouvert. Mais l'intérêt, je pense, est sincère. Parce qu'ils y voient peut-être, comme toi, une manière de construire autre chose qu'un machin. Mais de revenir finalement à des... J'espère qu'on peut encore penser que l'université est utile à la société. Et que là, il y a moyen de faire quelque chose de bien pour l'université. Pas juste une couche franco-allemande pour le plaisir de faire une couche franco-allemande. Ce qui ne me semble pas inintéressant, mais ce n'est pas ça le but. Donc, moi, il me semble, je n'ai pas à en faire une publicité extraordinaire. Il faut que dans les universités qui sont les premières concernées, ça doit être à l'université et à ses corps sociaux et à ses corps représentatifs de la SUMEC. Donc là, nous, on a une structure, hein. Les conseils, actuellement, on en a déjà parlé à nombreuses reprises dans nos instances, mais tant que ça continuera. Ensuite, c'est la diffusion dans les instances politiques et puis dans la société civile pour ce qu'elle a à dire à l'université, parce qu'à un certain moment aussi, je parlais d'autonomie tout à l'heure, bien sûr, l'université avance aussi, toujours à quelquefois des vitesses différentes et avec des idées différentes que le reste de la société, c'est ce qui fait aussi son intérêt. Mais clairement, aujourd'hui, on a mis un certain nombre de questionnements ou de suggestions dans la, disons, vers les collectivités, quel qu'en soit le statut. Et on attend plutôt absolument des échos. Les échos de politesse sont favorables. Bon, c'est déjà bien. C'est mieux ça que le contraire. C'est que de la politesse pour nous.
Et vous disiez tout à l'heure, en aparté, vous disiez que le fait que c'est mentionné au plus haut niveau par Hollande et Merkel, ce projet n'a pas nécessairement apporté beaucoup plus concrètement, enfin, pour l'instant.
La mention par Hollande, puis Hollande et Merkel au Conseil des ministres franco-allemand, a apporté de la visibilité à un projet qui est, vous savez, c'est un projet qu'on travaille depuis plus de 2 ans, à un niveau, on n'a pas besoin des premières pages dans les journaux. ça a apporté une visibilité. Est-elle bonne ou pas, d'ailleurs, parce que ça a conduit à des déformations, y compris la déformation sur le débat du siège que j'évoquais tout à l'heure, qui est une conséquence finalement directement inintéressante, puisqu'on a, pris un sujet et on l'a transféré sur un autre. Ça, c'est le défaut de la médiatisation extrême du dispositif. Bon, en tout cas, maintenant, ça a permis peut-être, j'espère, à l'étude par les services des ministères, de au moins prendre une vitesse un peu plus grande. Alors, est-ce que vous savez que la vitesse d'étude des dossiers par les ministères, c'est quelque chose de très relatif. Mais disons maintenant, votre question, vos questions répétées, bon, j'espère qu'il y a des gens qui le déposent aussi dans les instances, soit du Land de Bade-Württemberg, soit à Berlin, soit à Paris, et que les choses avanceront de ce point de vue.
Christian Mesguer, Fluvio Maritime International. Vous proposez de venir rapidement sur le problème d'Heidelberg et le corps.
Oui, bon, si vous voulez, je reviens un instant sur ECOR qui a 20 ans et qui était aussi un concept assez novateur à l'époque. Il est de bon ton de décrier ECOR en disant il n'y a presque rien qui s'y passe et tout. Mine de rien, ce qui s'y passe, c'est pas mal. Et même si je suis premier à dire que le nombre de personnes concernées n'est pas assez important, ça c'est bien. Le Bade-Württemberg est une région extrêmement riche en potentiel académique, avec de très bonnes universités, dont Heidelberg. Mais Heidelberg, actuellement, n'a jamais été dans le corps. Et Heidelberg, dans sa stratégie, mais il y a des experts de l'Allemagne qui vont me contredire, est beaucoup plus tourné actuellement dans une stratégie de cluster, de fédération, de regroupement vers le nord, vers Mayence. Voilà. Donc, naturellement, avec la concurrence interne qu'il y a en plus dans le Bade-Württemberg, actuellement, disons sur ce plan de construction régionale, Heidelberg n'est pas dans le coup. Par contre, on a de très nombreuses collaborations avec Heidelberg. De nombreux scientifiques de chez nous font des choses avec Heidelberg. Il n'y a pas de problème à l'individuel. C'est le collectif. Bon, mais quand vous regardez la zone, Heidelberg, c'est à peine. C'est la distance vers. Aller à Heidelberg, c'est comme aller à Bâle. Hein, voilà. Donc c'est une réflexion parce que vous savez qu'Heidelberg est une des plus belles universités d'Allemagne, avec une histoire extraordinaire, avec la pluralité des disciplines. Mais bon, ça c'est plutôt de la question de construction stratégique.
Ça viendra quand vous aurez une visibilité mondiale. Et Heidelberg viendra d'eux-mêmes.
Oh, oui. Je les vois demain. Alors.
Non, parce que les intérêts, c'est le monde, pas la région. C'est le monde. Le Berg, c'est une rare université à voir.
Est-ce que le niveau est à la hauteur? Donc, les idées pour développer la mobilité des étudiants dans ce campus européen.
Ah bah, en mobilité, dans ce que vous dites, je pense qu'il y a deux sujets qui sont pas en apparence évident et pas facile du tout. D'abord, il y a mobilité, donc c'est les transports. Il y a un sujet de transport. Ouais. C'est pas facile d'aller à Fribourg. C'est pas trop difficile. Non. Vous prenez le Regiobahn jusqu'à Offenbourg et après vous prenez un autre train. On y arrive, mais franchement, c'est pas évident. Et puis il y a le coût. Donc, avec le président de la région aussi, ça fait 2-3 ans et les responsables étudiants qui sont là le savent. On milite pour qu'on ait un système où finalement il n'y ait pas de surcoût pour un étudiant à partir du moment où il y a un abonnement TER Alsace qui puisse aller à Fribourg sur le même abonnement. Le principe est assez acceptable. Le problème, c'est que c'est techniquement très compliqué. Je crois que si vous regardez les ayants droit du transport régional qui, en Allemagne, ont géré le transport de Strasbourg à Fribourg, je crois qu'il y a au moins 4 agences différentes.
Trois.
Donc c'est compliqué. L'autre aspect, c'est la langue. Même, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'on poursuit. Et ça devrait passer, à mon avis, par une certaine gratuité, je ne crois pas, d'autres systèmes. C'est pas très cher, ces transports sont très subventionnés actuellement. Entre fortement subventionnés et gratuits, les collectivités peuvent faire l'effort. C'est pas terrible. Il faudrait plutôt essayer de négocier une gratuité pour les étudiants inscrits dans des cursus binationaux. L'autre point, c'est la langue. Oui, c'est un point. La langue, ça s'apprend soit quand on... Mais ça s'apprend... On a un problème de langue en France, je ne sais pas... et même en Alsace, avec le bilinguisme, ça ne marche pas si bien. La langue, ça s'apprend soit avant, soit s'ils l'apprendront sur le tas. Excusez-moi, nous, on a par exemple l'école de biotechnologie qui aussi est là depuis 20 ans. Chacun, quand les étudiants se baladent, ils apprennent la langue quand ils vont en Allemagne, et ben, les courses en allemand. Et quand ils vont à Bâle, les courses en Schwyzerdütsch. Hein, et ça, c'est encore plus difficile que des cours en allemand. Et bien, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Et à la fin, du coup, à la fin du cycle, et ben, les étudiants sont parfaitement bilingues. Il y a aussi bien le cours en anglais. Donc, je crois que ça, il faut améliorer de manière générale en France l'apprentissage des langues qui n'est pas assez bon. Mais ouvrir des cursus binationaux, c'est donner l'occasion de toute façon à des étudiants d'améliorer leur capacité en langue. Ils en ressortiront meilleurs en langue. Et ils en ressortiront, je rappelle aussi, avec une expérience humaine, une expérience sociale d'échanges internationaux qui est absolument fondamentale. Pourquoi pas Karlsruhe et pourquoi pas l'anglais? C'est les deux questions. Hein. Pourquoi pas Karlsruhe? Alors pourquoi pas l'anglais? Oui, l'anglais. Mais l'anglais, arrêtons d'opposer l'anglais aux langues nationales. L'anglais est une lingua franca à la fois des universitaires, comme l'était le latin autrefois, à l'époque où il n'y avait plus aucun pays qui parlait latin. Et c'est aussi une langue de l'emploi, dans beaucoup de cas. Donc de l'anglais, c'est bon pour nos étudiants. Ceci étant dit, on parle anglais, on parle allemand, on parle français, on fait souvent aussi quelque chose que beaucoup des praticiens franco-allemands pratiquent souvent, c'est que chacun parle sa langue. Enfin, c'est très fructueux. Moi, je comprends bien l'allemand, je ne parle pas très bien. Pendant les réunions, j'écoute les Allemands, je leur réponds en français, et quand ils ont pas compris mon français, ça marche pas mal. Donc, on doit vraiment n'y arriver pas, on passe à l'anglais. Alors Karlsruhe, oui, non, mais Karlsruhe, je rappelle, le prototype est Strasbourg-Fribourg. Ça n'est pas une démarche exclusive de Strasbourg-Fribourg. On a des relations très nombreuses avec Karlsruhe. Jean-Marie Lenne a un laboratoire à Karlsruhe. Hein, je veux dire, il n'y a aucun... Il n'y a aucune espèce d'exclusive. Il se trouve que pour des tas de raisons qu'on évoquait tout à l'heure, le prototype, le démarrage se fait à partir d'un noyau Strasbourg-Fribourg, mais qui n'a aucune vocation d'exclusivité et qui doit s'étendre à l'ensemble du bassin du Rhin-Supérieur.
Bien, mais c'est la fin de ce débat. Désolé. Voilà. Désolé pour les questions supplémentaires.
Si encore deux questions, allez-y, on a besoin de 5 minutes avant de
faire. Oui, d'accord.
Si encore un tour de table.
Si c'est possible, on y va. Alors, okay, oui, d'accord.
Oui, continue.
Je dois partir avant le quart.
Voilà. Encore 5 minutes. Okay. Il y a encore des questions, c'est dommage de ne pas y répondre.
C'est un petit retour en arrière. Vous en avez parlé un peu comme ça en passant. Et d'aucuns appelleraient ça des préoccupations corporatistes, mais quand même, quelles conséquences concrètes sur les services des personnels, pas seulement les enseignants?
Non, c'est pas corporatiste, c'est naturel. Moi, alors, vu qu'il n'y a pas de notion de fusion ou d'intégration, il n'y a pas de modification des missions des personnels. Moi, je pense qu'au contraire, je n'y vois pas de risque, puisque j'y vois plutôt des atouts qui pourraient être les atouts de développer pour les personnels des perspectives nouvelles, des ouvertures, soit simplement, j'allais dire, de retour d'expérience, c'est-à-dire aller voir chez nos copains, chez nos collègues, comment ils font et s'en inspirer, à travers une relation de proximité qui est une relation de complicité, carrément, échanger des expériences et en faire profiter finalement son institution d'origine. Et finalement y gagner aussi en progression personnelle, puisque nos personnels qui sont sur ces sujets-là pourraient à ce moment-là aussi mieux progresser dans leur carrière. Et moi je ne vois pas, il me semble, de danger sur la structure en général de nos universités, ni sur la structure sociale en particulier.
Quelques mots sur le calendrier?
Le temps universitaire est quelquefois très long et quelquefois très rapide. On a des choses qui fonctionnent déjà, finalement, puisque je parlais tout à l'heure en aparté, les deux instituts d'études avancées de Strasbourg et Fribourg ont lancé des appels d'offres communs déjà l'an dernier. Ça dépendra de la nature des instruments qui seront développés. Développer une simple connivence stratégique et de représentation vers l'extérieur, on peut le faire en 3 mois. Développer une réglementation adaptée, une vraie réglementation adaptée qui allège les contraintes des échanges transfrontaliers, ça prend le temps administratif et politique que ça doit prendre. Moi, je suis en général un peu trop longtemps, mais il y a un temps pour ça. Hein. Ça dépendra. Si c'est au niveau législatif, c'est forcément plus long qu'au niveau réglementaire, etc. etc.
C'est très pessimiste. Ça veut dire qu'en fait, vous attendez des inputs de l'extérieur avant de pouvoir commencer.
Non, tu as raison, mais c'est plus compliqué. Non, on n'a pas attendu les inputs de l'extérieur. On fait ce qu'on peut sur les éléments sur lesquels on a une maîtrise. J'ai donné un exemple avant de collaboration d'institutions qui sont purement universitaires. Mais on pointe, j'ai aussi donné des exemples de choses sur lesquelles on sera bloqué tant qu'on ne pourra pas avoir des aides de l'extérieur, par exemple le recrutement de binationales de professeurs. Là, moi, je pourrais avoir toute la volonté qu'on veut, le programme, tout ce qu'il faut, même les candidats. Si je n'ai pas la structure administrative, je ne peux pas le faire. Donc là, mais on aura toujours des manières de progresser je pense qu'on avance. Et de toute façon, encore une fois, comme on ne cherche pas à créer du technique ou de l'administratif, on avancera de toute façon dans le principe et dans la conviction.
Je voulais te demander,
Oui, ça c'est une question recherche venant d'un ancien du CNRS, c'est important. Les organismes nationaux comme le CNRS ont depuis longtemps, et l'INSERM aussi, créé des laboratoires internationaux, c'est-à-dire des laboratoires français à l'étranger, à Heidelberg en particulier, à Karlsruhe aussi, je crois qu'il y en a actuellement. Et notre stratégie pourrait très bien pousser, d'ailleurs aider à la création de ces laboratoires, ou d'ailleurs, récemment avec le président du CNRS, on évoquait la possibilité de laboratoires miroirs. C'est-à-dire, par exemple, un laboratoire international du CNRS dans une ville allemande pourrait avoir son miroir à Strasbourg. Son miroir, c'est-à-dire dans une discipline où on est bon aussi, et créer comme ça la collaboration avec un laboratoire mixte du CNRS dans une ville voisine et le laboratoire miroir à Strasbourg. Là, tout existe. Hein. Il suffit d'avoir une bonne volonté du CNRS, on peut démarrer ça demain.
Il y a, je pense que ce sera le mot de la fin. Vraiment, le temps tourne, l'heure tourne. Merci, merci, bonne journée.